France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on décroche le téléphone et on sait déjà que ça ne va pas bien se passer. On consacre l'émission à Scream, l'une des sagas les plus cultes du cinéma d'horreur, à l'occasion de la sortie de Scream 7 dans les salles aujourd'hui. Et événement, la nuit passée, des dizaines de salles en France ont proposé les toutes premières projections avant le reste du monde. Scream, c'est un slasher, mais c'est aussi un film qui connaît les règles, qui les annonce et qui s'en amuse. Une saga qui évolue avec son époque, avec les médias, les remakes, les réseaux sociaux, les fans, les théories, les spoilers. Tout ça fait partie du jeu. Et au centre, il y a une figure, Sidney Prescott, la final girl ultime incarnée par Neve Campbell. Pour en parler aujourd'hui, je suis très bien entouré. Judith Beauvallet, journaliste cinéma, qu'on lit notamment chez Écran Large et que vous connaissez aussi via sa chaîne Demoiselle d'horreur qui met en lumière les femmes dans le cinéma horrifique. Bonjour Judith.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci à toi.
Et avec toi, Romain Plourde, créateur du podcast Jumpscare qui explore les frissons, les mécaniques et tout ce qui fait qu'on revient toujours à ce genre de film. Comment ça va Romain ?
Ça va très bien et toi ?
Bah, très bien, très heureux que tu sois là aussi.
Et bah, très heureux d'être invité.
Magnifique. Alors, petit événement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Neve Campbell et donc en pleine promotion pour le film, on aura l'occasion d'écouter l'interview en fin d'émission. L'émission Special Scream, c'est tout de suite à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Alors, on va parler de Scream aujourd'hui, puisqu'il y a donc Scream 7 qui sort. Donc, événement, on sait que c'est une saga qui est très populaire aussi en France. Donc, on a eu des avant-premières en France, ce qui est assez fou. Peut-être commencer par le commencement. Quel est votre premier souvenir avec la saga? Peut-être que je me tourne vers toi. Je crois que tu as découvert la saga quand tu étais assez jeune.
Oui.
Tu n'avais pas forcément encore tous les codes pour bien comprendre qu'il y a une saga quand même assez complexe, en fait, avec beaucoup de références, souvent qu'on qualifie d'assez méta. C'est quoi, toi, tes premiers souvenirs avec Scream?
Ouais, j'étais assez jeune et c'était mon premier contact avec le slasher pur et dur, en tout cas, au moins le néo-slasher. Et je me rappelle surtout avoir été absolument terrifiée par la scène d'ouverture, la scène d'intro,
ouais.
Qui est toujours
avec Drew Barrymore, c'est ça, ouais.
Voilà, avec son fameux carré blond et cette espèce d'effet à la psychose. Où on pense que ça va être l'héroïne du film, mais en
exactement.
Fait, peut-être pas. Je trouve que cette scène est toujours diablement efficace aujourd'hui, et elle a beau avoir été parodiée dans tous les sens, elle reste d'une modernité et d'une efficacité qui a rarement été égalée depuis. Donc voilà, ça a été d'abord ce traumatisme-là, et après le reste du film qui est là pour détendre aussi un peu l'atmosphère, ouais. Pas que, mais voilà.
Et toi, Romain, ton premier souvenir ?
Moi, mon premier souvenir...
C'est le premier Scream aussi ?
Non, moi, non, c'est Scary Movie.
Ah,
évidemment,
bien sûr.
Qui a surperformé et qui a eu plus de succès que Scream. Et du coup, mon premier contact avec Ghostface et l'univers de Scream, c'est Scary Movie.
Okay.
Donc une parodie d'une satire, donc forcément un peu compliqué. Après, plus tard, pendant mon adolescence, j'ai rattrapé le premier Scream, que j'ai trouvé fabuleux, pour plein de raisons que tu viens d'évoquer. Mais comme j'avais vu Scary Movie avant, je savais un peu à quoi m'attendre aussi.
Mm-hmm.
J'ai moins eu ce choc. J'ai plus eu sur les suites qui, du coup, vont parodier, satiriser les autres codes des suites, des remakes, des legacy sequels, etc.
Alors on va évidemment parler de la saga dans son ensemble, qu'on va essayer. Mais effectivement, puisqu'on parle du premier Scream, ça sort en 1996, pardon, et ça ressemble à ça.
Allô ?
Allô ?
Qui est à l'appareil ?
Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien.
Ah, non, pas question.
C'est quoi ce bruit ?
Du popcorn qui grille.
Moi j'en mange qu'au cinéma.
Ben justement, j'allais regarder une cassette.
Ah oui, laquelle ?
Oh, je sais pas encore, sans doute un film d'horreur.
Vous aimez les films qui font peur ?
Uh-huh.
Je ne sais toujours pas votre nom.
Ça vous avancera à quoi de le connaître ?
J'aime bien savoir qui je regarde.
Il y a quelqu'un qui a inventé un jeu mortel.
Tout a commencé par un appel au secours au milieu de la nuit.
Ce quelqu'un est dingue des films d'horreur. Sa passion pour l'épouvante.
Allô ?
Bonsoir, Sidney.
L'entraîne. Très loin.
Tu aimes les films d'horreur ?
Non, non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une petite minette au gros sein qui se planque dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est consternant.
Attention !
Est-ce que tu as peur ? Scream.
Donc ça, c'est un extrait en tout cas de la bande-annonce du premier Scream.
Quel VF ?
À une époque, voilà, où on regardait tout en VF. Voilà, oui. C'est ça.
Sur VHS, bien sûr.
Exact, sur VHS, bien sûr. Il y a aussi quelque chose, c'est que ce film a été un succès, et presque un succès un peu surprenant, parce que c'est une époque où justement, les films d'horreur sont plus vraiment à la mode. Donc d'ailleurs, Scream va relancer aussi quelque chose. En quoi, justement, ce succès est surprenant, juste à l'époque ? Qu'est-ce qu'il relance ? Qu'est-ce qu'il crée Le premier Scream.
En fait, ce qui est très étonnant, c'est que effectivement, au début, le film n'a pas si bien marché et qu'en fait, il a marché plus dans la longueur de son exploitation. Okay. Et ça, ça a été un phénomène assez surprenant. Et c'est vraiment, je pense, la marque d'un film qui parle à une nouvelle génération et qui en fait va faire son succès sur le bouche à oreille. J'allais dire le bouche à bouche, non. Le bouche à oreille, où en fait, on a là une nouvelle génération qui passe par des canaux en fait qui ne sont pas ceux de la promotion habituelle d'un film, tu vois, et où en fait, ils vont se réapproprier la diffusion d'un film et du coup le succès de ce film qui vont choisir effectivement de porter en succès. Pour moi, c'est vraiment révélateur du fait que ce film était extrêmement moderne et qu'il s'adressait réellement à des jeunes qui ont toujours été les héros et les victimes des slashers, mais là, pour le coup, on les présentait comme des personnages intelligents et qui avaient davantage à apporter que d'être des victimes. Et je pense que c'est un peu à ça que le film doit son succès.
Est-ce qu'il n'y a pas justement aussi un côté teen movie en fait dans le film ? C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, c'était pas uniquement des jeunes qui se faisaient assassiner, comme tu le dis, mais on suivait une bande de potes. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a joué ? Parce qu'on était aussi dans une époque où on avait beaucoup de films autour d'adolescents, même de séries adolescentes. Tu penses que c'est aussi ça qui est peut-être à créer de l'affect autour du premier Scream ?
Eh ben, je pense que c'est la manière de traiter les adolescents pour le coup. Parce que c'est vrai que des teen movies, on en avait déjà, et que dans des slashers plus anciens, comme Halloween par exemple, pour rester dans des films assez basiques, t'avais déjà des bandes de jeunes. Mais là, il y a une manière de leur redonner vraiment le pouvoir sur la narration du film. Et vraiment, tu vois, cette manière dont tu leur dis qu'ils sont soumis à des règles de films d'horreur. Donc la scène très méta du film, on dit voilà, dans un film d'horreur, vous allez mourir si se passe ça, si vous faites ça. Là, il y a une manière en fait pour ces personnages de réussir à se réapproprier ces codes et à les retourner à leur avantage. Et c'est une manière de dire en fait les adultes et les anciennes générations, on va pas se soumettre au destin qu'ils nous ont écrit, tu vois. Donc c'est pour les jeunes, mais en fait des vrais jeunes pour le coup, qui sont considérés comme des personnes à part entière, qui peuvent être maîtres de leur destin.
Romain, alors moi quand je découvre le film au début, t'as dit tout à l'heure Scary Movie c'est une satire d'une parodie. Moi je ne vois pas du tout le côté parodique dans Scream la première fois que je le regarde parce que j'ai pas les codes.
J'ai dit Scary Movie c'est une parodie d'une satire.
Je vois pas le côté satirique dans Scream la première fois que je le vois parce que j'ai pas les codes de film d'horreur, je vois juste un film d'horreur. Mais effectivement c'est un film qui, on l'a beaucoup dit, qui est assez méta. En quoi justement, qu'est-ce qui est satirique chez Scream ? Dans quelle mesure il se moque des films d'horreur ? Qu'est-ce qui tourne en dérision ?
Scream s'auto-référence sans arrêt et surtout référence le slasher dans son ensemble. À l'époque, en 96, le slasher, c'est un genre qui est à moitié mort. Ouais. Les codes, ils ont été assimilés par tout le monde, mais le public, il en a marre. C'est-à-dire que les gens, Freddy Krueger, Michael Myers, Jason Voorhees, ils sont plus du tout intéressés par ce genre de film. Donc, il faut arriver et réanimer le genre et avoir des protagonistes qui savent d'un côté qu'ils sont dans un film d'horreur et qui vont du coup expliquer les règles à voix haute, c'est-à-dire ne pas coucher, ne pas boire, ne pas s'absenter. Ça va permettre de réécrire un petit peu et de rabattre un peu les cartes et de ramener un petit peu, donner un côté interactif au film que le public a beaucoup apprécié à l'époque.
Ouais, et justement parce que, est-ce que ça aussi c'est Wes Craven bien sûr qui est déjà une légende du cinéma d'horreur quand il fait Scream. Est-ce qu'il y a aussi une forme d'auto-parodie chez lui ? C'est quoi la démarche de Wes Craven quand il fait ce film ? Romain, j'en prie, vas-y.
Comme je le disais, le slasher, c'est un genre qui était à moitié mort. Ouais. Et Wes Craven l'avait déjà bien compris quelques années avant, puisqu'il va faire Freddy 7. À cette époque-là, Freddy 6, donc c'est la fin de Freddy, c'est là où on annonce la mort de Freddy. D'ailleurs, sur l'affiche, tu as marqué la date de l'enterrement, c'est-à-dire qu'on arrête, voilà.
Oui.
Il va revenir avec Freddy 7, dans lequel Freddy sort littéralement du monde du cinéma pour hanter les gens qui ont travaillé sur la franchise. Il va déjà planter les graines, il a déjà compris.
C'est déjà très très méta, ouais.
Ouais, c'est ça. Il commence, tu veux, à tâter un peu, à se dire « Ah, on pourrait commencer à explorer ce genre de thématique pour renouveler un peu le genre ». Voilà.
Ok. Judith, justement, toi, tu disais que quand tu as découvert Scream, tu n'avais pas forcément les codes à l'époque. Qu'est-ce que reprend même Wes Craven dans le monde du cinéma d'horreur ? Parce qu'on sait que c'est quelqu'un de très important, qui a marqué les genres de son empreinte. Qu'est-ce qu'il représente, Wes Craven ?
Alors, c'est vraiment une référence pour énormément de gens, non seulement parce que, évidemment, que c'est un dieu, j'allais dire un dieu vivant, plus vivant malheureusement,
plus vivant,
un dieu tout court, pour les fans de slasher, parce qu'il a largement contribué à entériner le genre du slasher, mais aussi parce que derrière, donc, il a créé, ou en tout cas contribué à créer le néo-slasher avec Scream, qui a, tu vois, encore maintenant, des films comme La cabane dans les bois, qui est beaucoup plus récent, complètement hérité de films comme Scream, donc il a réécrit l'ADN du slasher et du film d'horreur de manière générale, et il a su se réinventer aussi avec d'autres films qui sont parfois sous-estimés, comme Red Eye par exemple, avec Rachel McAdams et Cillian Murphy. Et
en fait, j'adore ce film.
Ouais, non mais
celui dans l'avion, c'est ça.
Oui, j'aime beaucoup ce film.
Et en fait, c'est que il a su éclater complètement le genre du slasher dont il a pu se sentir prisonnier à un moment donné, et en fait parler à un public beaucoup plus large qui n'avait pas besoin d'être aficionado des codes du slasher.
Oui,
tu vois.
Il a réussi à rendre ça mainstream. En fait.
C'est ça. Ouais. Et en fait, Scream, c'est un film, le premier en tout cas, qui a un côté extrêmement pédagogique en fait, et qui a permis de rendre accessible ce genre très codifié du slasher à des gens qui n'étaient pas forcément initiés.
C'est pour ça aussi que la critique spécialisée horrifique de l'époque n'a pas aimé Scream,
ouais.
Et que les critiques plus généralistes, les Cahiers du cinéma par exemple, ont adoré. Les fans de films d'horreur avaient du mal avec Wes Craven, parce qu'on n'a pas dit aussi un truc, c'est que Wes Craven était, comme tu l'as dit, piégé dans le genre, et ça fait longtemps qu'il disait en interview que ce qu'il faisait dans le film d'horreur, c'était pas vraiment sa passion, quoi. Il attendait qu'une chose, c'était de partir. Il avait des projets perso, il avait Music of the Earth, qui fera en 2003-2004, qui ira aux Oscars d'ailleurs, qui n'est pas du tout un film d'horreur avec Meryl Streep. Mais le film d'horreur.
Sans compte
va...
à Meryl Streep, tu vas aux Oscars.
Oui, de toute façon, c'est
un peu un cheat code.
Et les films d'horreur, il est fait un peu reculons, quoi. Scream, il a longtemps hésité. Il a lu le script, il a fait. Oh, encore un film d'horreur, quoi.
Oui, sauf que c'était un moyen, en fait, de twister un peu le truc et de pas faire un film d'horreur classique.
Son film à Oscar, il l'a eu en négociant avec les producteurs en disant « je vous fais une suite à Scream, mais vous me laissez faire mon film ».
Il y a quelqu'un d'autre qui est important, c'est Kevin Williamson aussi, qui d'ailleurs pour la première fois sur Scream 7 là, qui sort aujourd'hui, est derrière la caméra pour la première fois d'un Scream, parce qu'il avait fait Mrs. Tingle, je crois, en 1999.
Ouais. Dawson, il filme ou pas sur Dawson?
En tout cas, oui, il a travaillé sur Dawson, le scénariste du premier Scream, souviens The Faculty aussi, film de Robert Rodriguez. Dans quelle mesure il est aussi important sur la franchise, ce Kevin Williamson?
Il est vraiment important parce qu'il a scénarisé. Enfin, c'est quand même lui au départ qui a conçu l'histoire, qui a conçu le concept. D'ailleurs, c'est très marrant parce que le premier Scream, il l'a écrit alors qu'en fait, il était lui-même traumatisé par des cauchemars qu'il faisait à force d'entendre des faits divers sur tel ou tel tueur en série. Donc en fait, c'est vraiment une écriture qui est née de la peur, d'un besoin d'exorciser cette peur, cette espèce de paranoïa qui commençait à développer, et une manière aussi de la déjouer en la prenant aussi par l'humour et par le recul. Et donc en fait, c'est vraiment de lui que naît l'essence de Scream, au moins à l'écrit. Et ensuite, il scénarisera le 1, le 3 et le 4, je crois.
Il a quasiment tous écrits,
ouais.
Sauf les 5, 6, 7, du coup.
Oui, c'est ça. Et donc, c'est vraiment le scénariste originel, matriciel de la saga. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui, aujourd'hui, à part Wes Craven, qui malheureusement n'est plus là, porte l'essence de la saga, c'est lui.
Très bien. Bon, je pense qu'on écoute un morceau, alors, qui n'est pas en lien direct avec la saga, mais je me fais plaisir, vu que la saga s'appelle Scream. J'ai envie qu'on écoute le morceau de Michael Jackson et Janet Jackson, qui s'appelle Scream. Voilà, c'est tout. Très, très classique. On s'écoute ça et on continue à parler de la saga Scream. Et en fin d'émission, il y aura une interview de Neve Campbell.
Get up!
C'était donc ce morceau Scream de Michael Jackson pardon, et Janet Jackson qui n'a rien à voir avec la saga Scream, mais qui s'appelle Scream, voilà, ça me faisait plaisir.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Ça, c'est le fameux thème de Scream. Alors, dans Scream, évidemment, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi des héroïnes, notamment une héroïne, si on n'a pas qu'une, mais en tout cas une qui est assez marquante, c'est Sidney Prescott, jouée donc par Neve Campbell, qu'on entendra en fin d'émission. En quoi avoir une héroïne comme ça, c'est différent aussi dans le Slasher? Parce qu'en fait, c'est une survivante, un peu comme Jamie Lee Curtis à l'époque. D'ailleurs, je crois qu'avec le Scream 7, elle égale le record de Jamie Lee Curtis comme un personnage récurrent
dans
un
film.
Exactement. Qu'on fait une gueule récurrente, j'ai envie de dire. En quoi ça, c'est aussi un game changer dans ce genre-là, Judith? Et en quoi ce personnage-là, il est nouveau?
Ben, en fait, ce qui est fascinant, c'est que les règles du film d'horreur que va énoncer le personnage de Randy, Sidney, elle va en fait les déjouer tout le temps. Elle va aller à l'encontre de ces règles et malgré tout, elle va rester une final girl, elle va rester survivante. Donc en fait, il y a vraiment le message que la nouvelle génération ne peut plus, ne va plus en tout cas se soumettre aux règles de chasteté, un peu de pureté qui étaient un petit peu les règles du slasher à une époque. Tu vois, Jamie Lee Curtis dans Halloween, c'est quand même le prototype de la jeune fille comme il faut, qui ne sort pas, va pas faire la fête avec ses amis, qui reste faire la babysitter bien sage à la maison. Ouais. Alors que là, Neve Campbell, elle a une aventure, elle est intéressée par son épanouissement sexuel, elle couche avec le tueur accessoirement.
Elle enfin, boit. Bon. Tu vois, elle se drogue, elle boit aussi.
Ouais. Absolument. Et en fait, malgré
c'est
tout...
C'est une jeune, quoi.
Bah, ouais, c'est ça. c'est une vraie jeune. Et en fait, ouais, elle correspond pas à l'idéal d'une Amérique puritaine. Et pourtant, elle va survivre quand même. Donc en fait, c'est aussi de ça dont les jeunes avaient besoin, je crois.
Ouais. Est-ce que toi aussi, Romain, ce personnage-là te surprend dans ce genre de film?
Oui, parce que déjà on la rencontre, elle est déjà traumatisée, c'est déjà une victime.
Exactement,
elle a déjà un passif, t'as l'impression qu'en fait il y a un préquel que t'as
d'ailleurs,
pas
elle vu. Elle porte ça, je trouve, ouais. Sur son... Enfin,
c'est ça.
Campbell le porte vraiment pendant toute la saga, là. T'as l'impression qu'elle est tout le temps pas bien.
Tout le temps, ça la rattrape, quoi qu'elle fasse, etc. Et ça, en effet, comme tu disais, à l'époque, c'était pas du tout le cas. À l'époque, les Final Girl, c'était des clichés qui commençaient pure en fait, voilà, alors que là elle est déjà choquée, elle a déjà un passif et elle est déjà en pleine action, c'est ça. Au bout de 10 minutes, elle tabasse quand même Courtney Cox,
rappelons-le. Ouais, tout à fait.
Elle en a ras le cul. Et elle fonce, voilà.
Alors c'est, on a dit évidemment, c'est une saga, il y a le 7e opus qui arrive. Si on met de côté le 1, quel est votre Scream préféré? Romain, je sais que tu as une réponse.
Ouais, Scream 4 pour moi.
Pourquoi justement? Et qu'est-ce que Scream 4 raconte un peu d'intéressant?
C'est le premier Scream que j'ai pu voir en salle, déjà, ouais. Donc forcément il y a un petit affect par rapport à ça. Mais on sortait de 10 ans d'une époque assez riche en cinéma d'horreur, et comme Scream c'est une saga qui parle de cinéma, il y avait beaucoup de choses à dire. Et ça commence par une scène d'introduction que je trouve géniale, où il y a Stab, qui est donc la franchise Scream dans l'univers de Scream.
Exactement.
Et tu vois, l'intro, et tu sens qu'en fait, on va commencer à parodier les remakes. On en sortait à peine, et c'était infâme à l'époque, souvenez-vous, Halloween, Texas Chainsaw, c'était infâme. Et le film en parle plutôt intelligemment, je trouve, avec une nouvelle génération de jeunes, dont Kirby, qui est joué par Aden Panettiere, qui fait à la fin un speech sur les remakes, où elle cite tous les remakes qui sont sortis les deux dernières années, et ça dure 2 minutes non-stop, c'est infâme. Et il y a une excellente Ghostface, que je vais pas spoiler pour ceux qui nous écoutent, évidemment. Mais je trouve que c'est le...
Ghostface, c'est le tueur ou la tueuse.
Ghostface, en effet, voilà, c'est le tueur. Et je trouve que c'est celui qui est le plus percutant, voilà, dans le lot.
Et toi, Judith?
Moi, c'est peut-être un peu facile, mais c'est le 2 quand même.
Ouais.
Parce que je trouve que sa scène d'introduction est quasiment à la hauteur de celle du 1.
Ouais.
Elle est vraiment dans le cinéma, là, avec Jaden Pinkett-Smith. Elle est folle. Et on sent qu'il y avait vraiment cette manière de se poser la question de, en fait, comment est-ce qu'on réussit à faire aussi bien? Ou comment est-ce qu'on réussit à faire mieux? Et donc déjà, là, effectivement, on a le côté méta avec le fait qu'ils vont voir Stab au cinéma. Et en fait, la scène est d'une réussite totale. Et au-delà de ça, même dans le film, il y a aussi la scène avec la salle vidéo entre Courtney Cox et David Arquette, avec le silence, tu vois, par la vitre, à cause de la vitre blindée, ce genre de choses. Il y a plein de trouvailles de mise en scène et de manière à continuer à jouer avec le tueur qui n'ont pas encore été vus, que je trouve toujours aussi folle, et aussi tout simplement la mise en abîme à travers le théâtre aussi, je trouve ça très beau.
Je vais glisser un petit mot d'amour pour le 3 quand même, avant qu'on change le sujet, parce que le 3 c'est le vilain petit canard de la série.
Ouais,
il est rarement cité.
Il est même souvent mal aimé en fait.
Très souvent mal aimé, alors que c'est un film qui a été produit un peu à la hâte, avec beaucoup de problèmes de production. Les producteurs, les frères Weinstein, n'oublions pas, était derrière la prod et était apparemment infâme. Donc le fait que le film soit sorti, évidemment, c'est déjà miraculeux. Mais en plus, le film est assez visionnaire dans ce qu'il raconte sur les dérives
d'Hollywood.
Et sur Weinstein, exactement, c'est ça. Donc même si c'est un Scream un peu mineur dans la trilogie, dans toute la saga, il raconte des choses qui sont, avec le temps, de plus en plus réelles et beaucoup plus importantes.
Quand Scream sort le premier, effectivement, ça lance aussi une forme de mode, en tout cas, de ces films d'horreur, slasher, qui redeviennent tendance. Je pense à Souviens-toi l'été dernier, etc. Qu'est-ce qui fait, selon vous, c'est une question que j'ai posée à Neve Campbell, mais qu'est-ce qui fait, selon vous, que Scream est encore là? C'est la seule saga, en fait, qui, 30 ans après, puisque ce sont les 30 ans de la saga, est encore là et continue d'exciter les gens. Je ne sais pas dans quelle mesure le film, le 7e opus, va fonctionner, mais il y a énormément de théories sur le film. La fanbase est encore présente. Pourquoi Scream, ça dure?
En fait, c'est l'aspect méta des films et de la saga qui n'a cessé de se réinventer et de se réactualiser en fonction des nouvelles technologies. Tu vois, le premier parle de l'identité en soi du slasher, le deuxième parle du fait d'avoir des films qui racontent la vraie vie, le troisième parle du tournage même de ces films, le quatrième parle du live stream sur Internet, ouais. Le cinquième parle des legacy sequels.
Des fans un peu enragés sur les réseaux.
Voilà, les fandoms, etc. Et en fait, à chaque fois, il y a une manière de se réapproprier ce que c'est que l'actualité d'un public et de son rapport au film d'horreur et de réétudier ça de manière quand même toujours intelligente, parce que même si la saga a pu être inégale, moi il n'y a aucun film Scream que je déteste, je les trouve tous soit passionnants, soit au moins intéressants à différents niveaux, et en tout cas en termes de propos réellement méta, ils ont toujours su tenir le cap quoi.
Même le 6.
Alors, peut-être que ça s'affaiblit un peu, mais il y a toujours un truc quand même.
T'as raison, et j'ajouterais même que c'est aussi une franchise qui a réussi toujours à capter les générations qu'elle met en scène.
Oui.
Le premier met en scène, comme tu l'as dit, des adolescents des années 90 de manière plutôt réaliste, c'est-à-dire qu'ils boivent des bières, ils regardent des VHS, etc. C'est des vrais adolescents. Et
c'est ça qu'on faisait dans les années 90, on buvait des bières, on regardait des VHS, bien sûr.
Ils sortent des clichés, ils parlent comme des ados, ça fait plaisir. Et en 2021, quand ça revient au cinéma avec Scream 5, ils captent très bien la génération Z, je trouve, avec Jenna Ortega et Melissa Barrera. Et d'ailleurs, la franchise a très bien cliqué avec cette génération à nouveau, ce qui a relancé la machine. C'était un énorme succès.
Absolument. Alors, on a dit, aujourd'hui sort Scream 7. On peut écouter la bande-annonce.
On y est.
Je reviens pas qu'on ait loué la maison de ce psychopathe.
Oh, ça c'est trop cool. C'est un détecteur de mouvement.
Allô ?
Bonjour, Sydney. Je t'ai manqué. Vous vous êtes trouvé une jolie petite ville. Toi et ta ravissante fille, ça me rappelle l'endroit où on a grandi.
Dis donc, tu en sais des choses sur moi pour un petit compte plus qui se cache derrière un modulateur de voix ?
Oh, je ne me cache pas, Sydney. Pas cette fois.
Scream 7 donc qui est disponible, qui sort dans un contexte un peu particulier parce que le film aussi souffert d'un boycott d'une partie du public avec des changements de casting, de réalisation, etc. Juste avant de donner la parole là-dessus, c'est quand même une saga qui marche très bien en France. J'ai les chiffres, je ne vais pas tous les faire, mais en gros, ils ont tous passé le million d'entrées, sauf le 5 qui a bloqué à 546 630 entrées. Mais sinon, globalement, ce sont toujours des gros succès. Scream, celui qui a eu le plus de succès étant le 3. Tu vois, celui dont tu citais, je sais plus qui l'a cité.
C'est moi qui ai le petit canard, pardon, Romain, au final.
Finalement, c'est lui qui a le plus marché à l'époque, en tout cas chez nous, en France. Qu'est-ce qu'on peut attendre du 7? Est-ce vous êtes confiant? Vous avez peur? Parce qu'il y a vraiment un climat assez particulier. En même temps, c'est réalisé par Kevin Williamson. Donc, comment vous positionnez sur ce film?
J'y vais.
Vas-y, je t'en prie, Romain.
Moi, j'ai peur. Moi, j'ai très très peur.
C'est le but.
Ouais, d'un côté, oui, mais pas dans le bon sens du terme, là. C'est-à-dire qu'en effet, bon, Scream 7 a eu beaucoup de problèmes de production, on va revenir dessus. Ils sont actuellement dans la démarche de jouer sur la nostalgie, ce qui est souvent le début de la mort d'une franchise.
Ouais.
Je pense à Star Wars, Star Wars 9, je pense à Jurassic World Dominion. Quand on commence à ramener tous les acteurs qui sont censés être morts, David Arquette, Matthew Lillard, tout ça qui reviennent, tu sens qu'on commence vraiment à vouloir taper dans les instincts les plus primaires des fans, c'est-à-dire jouer sur la hype en mode « Oh, il revient !» etc. Et là, souvent, c'est que ça ne veut plus raconter grand-chose. Récemment, Kevin Williamson a raconté que le film allait plus vraiment être méta, et allait vraiment se baser sur Sidney Prescott et son histoire. Et à partir de ce moment-là, Scream devient une franchise de slasher très classique.
Un peu lambda.
Ça devient stab.
Oui.
Voilà, finalement. Ouais.
Toi, Judith, tu partages les mêmes craintes ou t'as un peu d'espoir malgré tout?
Alors, je partage les mêmes craintes, surtout en plus parce que donc, c'est vrai qu'à une époque, le film devait être réalisé par Christopher Langdon. Je pense que c'est pareil, c'était la bonne personne pour réaliser un futur Scream parce qu'il avait quand même fait Happy Birthday qui maîtrisait vachement bien l'équilibre entre peur, code du slasher et comédie et un regard méta. Mais c'est vrai que voilà, suite au licenciement compliqué, abusif de Melissa Barrera, qui était devenue le nouveau visage de la saga, le départ de Jenna Ortega avec et donc le départ du réalisateur, c'est vrai que là, on se dit quand même, on a affaire à une production extrêmement compliquée, et c'est vrai que les propos de Kevin Williamson ne me rassurent pas. Et en même temps, c'est quand même lui qui a inventé ce concept au départ. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'annonce? Est-ce qu'il n'y a pas un effet promo derrière ses propos? Et en fait, on n'est pas à l'abri que Scream nous révèle finalement un propos extrêmement méta et qui, a priori, intégrerait un discours sur l'IA qui est vraiment un peu le sujet qui terrifie tout Hollywood en ce moment. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'une saga comme Scream, maintenant, s'empare de ce sujet et un regard intéressant là-dessus. Après, est-ce que la complication de la production va permettre en fait, d'avoir écrit un bon scénario et d'avoir pu le mettre en scène de manière correcte? Je ne sais pas. Je pense que Kevin Williamson pourrait le faire, aurait pu le faire. Est-ce que là, il va avoir eu les conditions nécessaires? Je ne sais pas.
C'est pas lui qui l'a écrit, il faut oublier ça.
C'est pas lui qui l'a écrit.
C'est les scénaristes du 6.
Ouais.
Voilà.
Oui, c'est oui.
Bon, on verra. En tout cas, il est disponible. En tout cas, il est en salle aujourd'hui. On va écouter un autre morceau. Et là encore, je me suis fait un plaisir, puisque le tueur s'appelle Ghostface. Donc j'ai mis un morceau de Ghostface Killa, évidemment, du Wu-Tang. Morceau de Ghostface Killa avec Mary J. Blige, All That I Got Is You, morceau classique des années 90 aussi, qui doit avoir quelque chose comme 30 ans lui aussi. Hein. Donc on s'écoute ça. Et juste après, on aura Neve Campbell.
What to give you blood? 3 months, man. What you doing in here anyway? You ought to be home with your mama. How old are you, boy?
13.
Damn. The bastards must be running out of niggas to arrest.
This goes out to all the families that went through the struggle.
Yeah.
With no heart. It was all from the heart. Everything was real. Yeah, dwelling in the past, flashbacks when I was young. Whoever thought I'd have a baby girl and 3 sons? But going through this difficult stage, I find it hard to believe why my old earth had so many seeds, but she's her own woman. And due to me, I respect that. I saw life for what it's really worth and took a step back. Family ain't family no more. We used to play ball, eggs after school, eat grits cause we was poor. Grabbed the flies for the channel, fixed the hanger on the TV. Rocking each other's pants to school wasn't easy, we survived winters. Snotty nose with no coats. We kept it real, but the older brother still had jokes. Sadly, daddy left me at the age of 6. I didn't know nothing, but mommy neatly packed the shit. She cried, and grandma held the family down. I guess mommy wasn't strong enough, she just went down. Check it, 15 of us in a 3-bedroom apartment, roaches everywhere. Cousins and aunts was there, 4 in the bed, 2 at the foot, 2 at the head. I didn't like to sleep with John, Johnny peed the bed. 7 o'clock, plucking roaches out the cereal box. Some shared the same spoon, watching Saturday cartoons. Sugar water was our thing, every meal was no frill. In the summer, free lunch held us down like steel. And there were days I had to go to Texas with a note. Stating Gloria, can I borrow some food? I'm dead broke. So embarrassing, I couldn't stand a knock in they door. My friends might be laughing, I spent stamps in stores. Mommy wears a toilet paper, use the newspaper. Look, Miss Rose gave us a couch, she's the neighbor, things was deep. My whole youth was sharper than cleats. 2 brothers with muscular dystrophy. Killed me, but I remember this. Mom's a lick of fingertips to wipe the coal out my eye before school with a spit. Caseworker had her running back to face to face. I caught a case house and tried to throw us out of our place. Sometimes I look up at the stars and analyze the sky and ask myself, was I meant to be here? Why? Yeah. Mommy, I love you.
And I'm so thankful for you. All that I got is you.
It's all you.
And I'm so thankful.
Brought me here like this.
Being down and out.
C'était All That I Got Is You, pardon pour mon accent horrible, Ghostface Killah, featuring Mary J. Blige, et dans quelques instants, on aura l'interview de Neve Campbell.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
So, Neve, nice to meet you.
Neve,
très heureux de te rencontrer. Tu es là aujourd'hui parce que ce Scream 7 va bientôt être au cinéma. Et tu es Sidney Prescott. C'est toi. Qu'est-ce que ça te fait de revenir? Parce que tu n'étais pas présent dans les derniers Screams. Et tu es l'icône de cette série de films. Comment c'était? Et qu'est-ce que c'était de reprendre ce personnage iconique?
I'm really grateful to get to play Sidney.
Ouais, je suis très reconnaissant de pouvoir jouer le personnage de Sidney, de faire partie d'un film qui a 30 ans. Hein. Pouvoir jouer un personnage et le rejouer encore et avoir une sorte de trajectoire et voir quel est son arc à elle. C'est un vrai plaisir. Hein. Et puis, jouer un personnage qui est tellement aimé aussi, c'est sympa.
Quand tu as commencé en tant que Sidney, tu étais jeune, très jeune.
Et maintenant, vieille.
Première erreur. Bon, ma journée était parfaite jusqu'ici. Ce que je voulais dire, c'est que tu étais une très jeune actrice, tu commençais ce métier. D'ailleurs, je t'avais découvert dans une série télé.
La vie à 5.
Ouais, ça s'appelait La vie à 5 en français.
Ah, oui.
J'étais très fan de cette série. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et je t'imagine avoir grandi avec ce personnage. Comment est-ce que t'es lié avec Sidney dans ta vie personnelle? Parce que ça fait 30 ans, donc j'imagine que t'as une relation spéciale avec elle. Est-ce qu'il y a une grande différence entre Sidney et toi?
Je suis inspirée par Sidney. Je suis inspirée par sa force, par son courage. Et je me dis que si c'était dans sa peau, et j'espère ne jamais être dans sa peau, mais en tout cas, si j'étais dans sa peau, j'espère que j'aurais cette force qu'elle a. On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir sa trajectoire et puis la mienne, nos parcours. Au départ, c'est une jeune fille, c'est une victime. Elle décide de ne pas être une victime. Et moi, dans le même temps, j'ai commencé dans ma carrière et j'ai duré toutes ces années. J'ai dû me battre pour certaines choses, évidemment. Et le fait d'être une femme, c'est probablement l'expérience, bien souvent, pour nous, femmes. C'est vivre le fait d'être une femme. Donc, je me reconnais en elle.
Et aussi.
Et puis le fait d'être une mère, ouais. Maintenant, oui, c'est ça. C'est parce que je suis mère aussi. J'ai vécu toutes les expériences de mère que j'ai vécues et je vois quel est son parcours à elle aussi. Et je pense que ça nous rapproche. Ouais, c'est bien.
Yeah, I can imagine.
J'imagine.
And also, no, we had, I think, before you. Okay, there was also Jamie Lee Curtis before in Halloween, but
avant toi, il y avait Jamie Lee Curtis avec Halloween. Mais il y avait un peu le cliché de la jeune femme qui va mourir dans les films d'horreur. Et pas toi. T'es encore là, t'as survécu. Et aussi, je pense que tu n'es pas le personnage typique, enfin l'héroïne typique de ce genre de film, parce que t'es aussi forte. Est-ce que tu es consciente de ne pas être justement l'héroïne typique de ce genre de film? Parce que je pense sincèrement que t'as ramené quelque chose de nouveau. On n'avait pas l'habitude de voir ce genre de personnage dans ce genre de film.
Kind of main character in this kind of movies.
I think.
Je pense que si on n'incarne pas la peur, si on incarne un personnage qui tout à coup a de la force et n'a plus peur, comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, pour moi, ce n'est pas réaliste. C'est aussi, je dirais, beaucoup plus excitant de voir quelqu'un qui va lutter contre sa peur en disant, plutôt que dire, voilà, je suis forte, je suis un héros, etc. Il faut vraiment qu'on perçoive l'humanité de la personne. Sinon, c'est pas réaliste de se dire que quelqu'un comme ça est un héros et tout va bien, il n'a peur de rien. Et progressivement, il faut que ça se fasse.
La première fois que tu as incarné Sidney Prescott, il y a 30 ans, est-ce que tu avais peur de jouer dans ce type de film dans les années 90? Parce que les films d'horreur n'étaient pas vraiment à la mode à l'époque. C'était aussi un risque pour toi, pour ta carrière. Est-ce que tu le ressentais comme ça?
Bah, bien sûr, j'étais nerveuse, parce qu'en tant qu'actrice, surtout à l'époque, on n'aspirait pas à faire un film d'horreur. On voulait faire des films dits de qualité, et ça ne faisait pas partie de cette catégorie.
Oui, la réputation de ce genre de film n'était pas très bonne à l'époque.
Non, c'est vrai, mais de ce point de vue-là, ça a été un film vraiment révolutionnaire. Scream, il a apporté de l'humour, le sens de la comédie, quelque chose de plus, en fait, par rapport à ce type de film. Et après, c'est Kevin Williamson qui a été vraiment brillant, le réalisateur. Et donc, c'était différent, c'était nouveau, Scream, et donc j'ai eu de la chance. Et souvent, les gens me disent, mais pourquoi est-ce que tu as choisi ce film? En fait, c'était la première audition qu'on m'a proposée pour un film, donc j'ai pris, et tant mieux pour moi, ça s'est bien passé. Mais les actrices, les acteurs, on est toujours à la recherche du prochain rôle, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme rôle, hein. Il faut travailler.
C'est ça, la vraie vie des acteurs et des actrices, vous êtes rarement en contrôle de ce que vous allez faire. Alors, aussi, où nous avions beaucoup de grosses franchises dans les films d'horreur, mais Scream est encore là. Et c'est vrai que dans les années 90, tout d'un coup, les films d'horreur sont devenus à la mode, et on a eu beaucoup de films après Scream. Certains ont duré un petit peu, mais maintenant, 30 ans après, Scream est la seule grosse franchise qui est encore là. Comment est-ce que tu expliques ça?
How do you explain that?
Je pense que Kevin Williamson arrive vraiment bien à gérer l'air du temps, en fait. Et il a réussi à gérer avec les scénaristes, d'ailleurs. Ils ont réussi à se dire, bon, qu'est-ce qui se fait en ce moment, ou qu'est-ce qui manque, ou qu'est-ce qui est intéressant dans notre décennie, ou pour les gens qui aiment, par exemple, le film d'horreur, qu'est-ce qui les intéresse. Et on essaie de trouver un nouvel angle, hein, pour voir ce qui va être drôle, ou faire un peu d'introspection, trouver quelque chose, parfois d'astucieux aussi. Et donc, il y a tout ça. On passe un bon moment, il y a de l'horreur, les gens meurent, mais c'est vrai que les scénaristes sont vraiment très, très bons. Ils travaillent beaucoup sur le choix des acteurs et des actrices, hein. J'ai beaucoup de chance.
J'ai mentionné Jamie Lee Curtis un peu avant, parce que je crois qu'elle avait le record de la personne qui a le plus repris un personnage dans un film d'horreur avec Halloween. Et maintenant, vous êtes à égalité.
Ah, on est à égalité, ça y est.
Qu'est-ce que ça représente? Bien sûr, c'est aussi une icône, et Halloween sont des chefs-d'œuvre, surtout le premier. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Peut-être que c'est juste un chiffre, mais est-ce qu'il y a un sentiment particulier à propos de ça?
Is that there a special feeling about that?
Jamie Lee is a friend.
Alors, Jamie Lee est une amie.
I adore her.
Je l'adore.
I have not watched her movies. She has
J'ai pas vu ses films. Elle n'a pas vu les miens non plus. On a fait un film ensemble, une comédie, il y a des années de ça. Et on s'entend super bien. On n'est pas des fans des films d'horreur, ni l'une ni l'autre. Bon, il faut que je les voie, ces films, quand même. Je vais le faire. Mais bon, le fait qu'elle est tellement respectée, les gens l'adorent, ils adorent son personnage. Et en plus, ça fait tellement longtemps qu'elle fait ce personnage, qu'on me compare à elle, franchement, c'est génial. C'est une actrice incroyable.
Quelque chose qui est aussi intéressant à propos des Scream. Alors bien sûr, le premier Scream, c'est un film d'horreur, mais aussi toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est un film d'horreur. C'est pas uniquement à propos de tuer des gens. Et le tueur de Scream, bien sûr, c'est parfois une parodie des films d'horreur. C'est assez intelligent. Je pense aussi que Wes Craven a ramené ça pour ses films. La première fois que j'ai vu Scream, j'ai pas réalisé tout ça. Pour moi, c'était juste un film d'horreur. Quand tu as accepté de jouer ce rôle, est-ce que tu étais consciente qu'il y avait aussi toute cette réflexion sur le genre dans les films Scream?
About the world genre, the Scream movies.
I liked the fact that it was a reflection of the genre.
J'ai aimé le fait que c'était une réflexion sur le genre, justement. C'est ça qui m'a plu. Prendre un peu de recul par rapport au genre, s'en moquer un peu, c'était vraiment malin. Il y avait quelque chose de vraiment malin dans cette démarche. Et en plus, c'était nouveau. Et en plus, c'était tout à fait ce que les gens ressentaient.
Maintenant, il y a une fanbase complètement culte autour de Scream. Les gens écrivent, réfléchissent à des théories sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est terrifiant de jouer un personnage qui est autant aimé, qui génère de l'amour, mais aussi, j'imagine,
des avis tranchés?
Exactement. Et on peut décevoir les gens. Est-ce que ça fait peur d'être au centre de quelque chose comme ça?
Alors, moi, une des choses les plus géniales qu'on m'a appris, c'est que ce que les gens pensent de moi ne me regarde pas. Donc franchement, non, je ne regarde rien, je ne lis rien, je ne vais pas non plus sur les réseaux sociaux, je ne regarde pas la fanbase. Parfois, les gens se réunissent, je vais y aller, les gens sont contents, ils sont très sympas et ça se passe bien et c'est très sympa. Mais je garde toujours un petit peu de recul par rapport à tout ça. Donc, ouais, je pense que c'est mieux en fait que je m'abstienne de regarder parce que sinon c'est trop de pression. Je vais me dire, ah là là, qu'est-ce que je pense du personnage ? Elle est qui ? Elle en est où de son parcours, etc. Donc, j'écoute pas tout ça. Tout ce bruit, c'est pas pour moi.
Tu réussis à ne pas regarder ça ?
Je me concentre sur mon parcours à moi, ouais.
Pourquoi est-ce que tu as décidé de revenir pour ce film ? Parce que je crois que tu as refusé de revenir dans les précédents. Est-ce que tu pensais que c'était le bon moment pour toi de revenir ?
Ils sont revenus avec beaucoup de respect vers moi, je dirais. Bon, ils sont revenus en disant qu'ils voulaient vraiment que ce film revienne sur l'histoire de Sidney Prescott, dire où est-ce qu'elle en est dans sa vie. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans. J'étais assez curieuse de voir où elle en était. Et je me suis dit, le public aussi peut-être sera curieux de savoir où elle en est. Voilà, et puis j'aime faire ces films de toute façon.
Ouais. Est-ce que c'est rigolo à faire ? Comment c'était sur le tournage ?
Mais ouais, c'est très très sympa. Faire ces films, c'est retourner à la colo ou au summer camp. Hein. On retrouve les vieux amis, enfin ceux qui ont survécu en tout cas. Il ne faut pas prendre les choses très sérieusement non plus si on veut faire bien les choses. On est là pour faire rire. Hein. On propose de la détente quand même. Alors, Kevin, en l'occurrence, est un ami très proche. Ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. C'est quelqu'un que j'adore. Hein. Et maintenant, il passe à la réalisation. C'était super important pour lui. Donc, on a regardé les rushs ensemble. On a été vraiment aussi en salle de montage ensemble. J'ai vraiment participé. On a passé un bon moment. Et puis en plus, les acteurs sont géniaux. Isabelle, qui me donne la réplique et qui joue ma fille, elle est excellente. Vraiment une super distribution.
Alors, je ne sais pas si je peux poser cette question parce que tes fans peuvent devenir fous après la réponse, mais je vais te donner mon avis. Tu vas me dire. Si tu veux, en tout cas, si tu es d'accord. Mais j'ai une opinion qui n'est pas très populaire. Je pense que mon Scream préféré est le 4. J'adore Scream 4. Je ne sais pas comment tu ressens par rapport à celui-ci. Et bien sûr, le premier est très célébré, c'est un classique. Mais je voulais te demander, quel est ton Scream préféré ? Je ne sais pas si tu peux répondre, parce que ta réponse peut générer de la folie autour du monde. Mais j'ai de la tendresse pour le premier, parce qu'il est très intelligent, il est très drôle. Et c'est très compliqué de faire un film d'horreur quand tu as eu trois premiers films qui ont eu des succès. Comment tu te sens par rapport à cet avis ?
Ton avis, tu veux dire ?
Oui.
Moi, je respecte l'avis de tout le monde, dont le tien, évidemment. Je dirais que moi, j'adore le premier, évidemment, parce que c'était le premier, et puis c'était vraiment révolutionnaire à l'époque. C'était complètement neuf. Mais bon, je les aime tous.
Quand vous faisiez le premier film, et que c'est devenu un succès immédiat, est-ce que tu étais surpris par ce succès ?
Oui, et comment que j'étais surprise à cet âge-là, j'avais déjà fait La vie à 5, j'avais fait aussi Dangereuse Alliance, un film là, cette année, mais c'était mon premier long métrage et je me souviens que les agents m'ont appelé au bout d'une semaine en me disant voilà les chiffres, et je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils m'appellent en fait, je me dis oui, aïe, aïe, ça a du mal de se passer, et ils m'ont dit non, pas du tout, au contraire, ça va super bien, je connaissais pas les chiffres à l'époque, et c'était énorme, c'était complètement dingue, un moment super excitant, et c'était vraiment marrant, j'allais au cinéma, j'entendais les gens qui riaient dans la salle, je voyais les gens qui venaient, revenaient, 10, 12 fois pour voir le film, c'était dingue.
Merci beaucoup, merci pour ton temps, et je te souhaite le même succès pour celui-ci, merci.
Merci.
À la régulière, sur France Inter, Mehdi Maizi.
C'était donc Neve Campbell donc, en interview dans La Régulière pour parler de Scream 7 et donc de la saga en règle générale. On va écouter un morceau tout de suite qui n'a encore une fois rien à voir, mais qu'un morceau que j'adore, c'est un morceau de Makala qui s'appelle Loketo. Et juste après, on revient avec nos invités Judith Beauvallet et Romain Plourde pour continuer à discuter de Scream.
Mata, petit canta, position et kata, 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 tout distraction et yete, yete.
et mam.
Tu m'as compris, non, tu m'as. Hein, j'ai compris, yeah, j'ai très bien compris. J'étais posé dans ma breu. La daronne veut que je mette start pour le cop. Une carte Africa call. Dans mon texte, tout genre de. Dans mon texte, tout genre de cran. Y'avait ceux qui étaient des cracks à l'école. Ceux qui vendaient le 2 qui collent. Juste à côté de chez Jordi, Paul, Fried et Lewis. Échant, mon gars, chante. Dans le quartier, c'est une légende. Dans la ville, tu l'appelles peut-être Joao. Rime avec vivacité. Je sais dire je t'aime. Insulté en plusieurs langues. Des vacances d'été, j'étais tout le temps aux avant-chères. Un texte pour plusieurs blettes. C'est le mélange qui m'a fait voyager. On a grandi avec. Tu m'as compris. Fuck le lundi et mardi. Vive mercredi, vendredi. Je garde la vie, mais avant ce soir. Je ne peux pas te mentir. Cher, ça sera toujours avant cher. Avec Jeff, tu m'as compris. Faut que le lundi et mardi, vive mercredi. Oui, oui, je garde la vie, mais avant ce soir, je ne peux pas te mentir. Très cher, ça sera toujours avant cher.
C'était Makala, sûrement mon morceau préféré de son tout dernier projet.
Mehdi Maizi sur France Inter.
On est avec Judith Beauvallet et Romain Pour. On a encore un peu de temps quand même pour parler de Scream. Et Romain, alors, les gens qui nous écoutent n'ont pas l'image, mais tu es venu avec le masque de Scream, que tu ne lâches.
Oui.
Enfin, le masque de Ghostface,
fameux.
Plus exactement. Pourquoi Ghostface est un tueur aussi iconique? Parce qu'effectivement, il change de film en film. L'identité du tueur ou de la tueuse peut changer. Mais il y a effectivement un outfit, quelque chose qui est très très, enfin, qui est on ne peut plus iconique. Pourquoi Ghostface et Ghostface?
Le coup de génie derrière ce masque, c'est que, contrairement à tous les masques de films d'horreur avant lui, c'est un masque trouvable dans le commerce. Il a été trouvé par hasard par la productrice Marianne Maddalena dans un grenier, en plein repérage. Okay. Ils ont vu ce masque, ils se sont dit...
Il n'est pas né avec Scream, en fait.
Pas du tout, ouais. Il existait déjà avant. Il existait déjà depuis des années. Et en fait, ils se sont dit, mais en fait, ce masque... Bah, il tue, quoi. Franchement, ouais. Il ressemblait vraiment au cri, la peinture, le munch. Et ils se sont dit, bah, on peut peut-être le prendre. Donc, ils ont fait un masque similaire pour essayer de se calquer dessus, pour pas avoir à acheter les droits. Pour ça que dans le film, d'ailleurs, on voit un deuxième masque sur certains plans. Il y a deux masques qui ont été utilisés, un qui est pas très beau et le masque qu'on connaît. Et en fait, ils se sont rendus compte que bah, ça rendait pas bien. Et ils ont décidé d'acheter les droits du masque, qui du coup en fait un super goodies, ce qui permet de se déguiser facilement en Ghostface avec juste un drap noir et le masque. Et donc, Ghostface a pu être facilement cosplayé, a pu être facilement assimilé par les gens. Et ça joue avec l'idée que Ghostface, ça peut être... Vous, ça peut être toi, Judith, ça peut être moi, ça peut être tout le monde, en fait.
Et c'est ce que raconte le film, en fait. C'est
oui,
que c'est à chaque fois.
Exactement. Ouais. Exactement. Voilà.
Est-ce que on a entendu Neve Campbell avant qui joue au ciné Prescott, pardon. Qu'est-ce que, mine de rien, on parlait des craintes, des réserves que vous pouvez avoir sur le 7e opus. Ciné Prescott, c'est peut-être la fin de son arc avec le 7, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas, évidemment. Mais est-ce que ça représente quelque chose, quand même, pour toi, Judith, qui étudie ce genre de personnage, la trajectoire de Ciné Prescott? Est-ce que la voir revenir, mine de rien, au-delà des craintes qu'on peut avoir, est-ce que ça a une signification, quand même, pour toi? Est-ce que tu attends ça, quand même?
Oui.
Et qu'est-ce
oui.
qu'elle représente, Ciné Prescott?
En fait, même avec le 5 et le 6, auxquels je trouve des qualités, au départ, j'étais pas du tout fan de l'idée qu'elle soit pas au centre du film, et dans le 6, qu'elle y soit pas du tout. Parce que pour moi, Ghostface n'avait pas de raison d'être sans Sidney Prescott, parce qu'il était vraiment né avec cette idée de traquer cette femme-là en particulier, ouais. Alors pas que, mais à cause de l'histoire de sa mère, etc. Et il y avait vraiment en fait l'idée que Ghostface n'existe que pour se construire en opposition à cette femme et que pour la traquer. Et en fait, le fait qu'elle disparaisse progressivement un petit peu des récits et complètement du sixième film, ça, pour moi, ça n'avait pas de sens, parce qu'en fait, c'est vraiment, elle a construit son histoire et son passé de manière extrêmement liée avec Ghostface, qui est, comme on le disait, effectivement, est devenue une figure intemporelle, qui est en fait cette espèce de fantôme qui, peu importe en fait qui a sous le masque, effectivement, oui. c'est vraiment ce qu'il incarne, et c'est cette espèce de désir de tuer qui perdure, qui compte. Et en fait, si son obsession pour Sidney disparaît, ben en fait pour moi Ghostface disparaît aussi, et ça devient effectivement un boogeyman comme un autre, qui n'est pas plus effrayant que ça, parce qu'il n'a pas cette espèce de but immuable qui est lié à une personne en particulier. Donc là, le fait qu'elle revient, pour moi, ça reste au moins important, on va dire, oui, dans la trajectoire de Scream.
Est-ce que c'est la Final Girl ultime?
Bah pour moi, oui, c'est forcément ouais. ma préférée. Oui. Surtout qu'en plus, tu vois, dès le premier, ce que je trouve passionnant, c'est que les slashers ont souvent un sous-texte extrêmement sexuel, on va dire, oui. avec une dénonciation des VSS, avec le couteau en général, qui est un symbole phallique assez évident, voilà. Et dans le premier, en fait, on va vraiment oser aller dans cette espèce de sous-texte-là et en fait montrer Neve Campbell, le personnage de Sidney Prescott, qui en fait va retourner l'ascendant dans des scènes assez métaphoriques et en même temps assez claires, la manière dont elle plonge son doigt dans la blessure du tueur à la fin pour se défendre. Bon voilà, il y a des scènes qui sont extrêmement bien construites, qui se répondent les unes aux autres comme ça. Et en fait, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir aussi le parcours intime de cette femme, en fait, qui se construit au travers des films, en parallèle, encore une fois, avec le parcours du tueur. Et donc là, ce que ça va donner au sein de sa famille, j'ai peur du côté très nunuche, peut-être, on sait pas, mais j'ai aussi très envie de voir ce que ça va donner à ce niveau-là, la manière dont ils vont se construire toujours en opposition l'un à l'autre, mais avec la famille au centre.
Romain, il y a aussi quelque chose qu'on a rapidement mentionné, c'est l'humour, en fait, dans les films. L'humour est présent, je ne vais pas dire omniprésent, mais qui est présent dans des films qui sont aussi, qui se veulent drôles et qui souvent le sont. Et ça, c'est souvent assez casse-gueule dans des films d'horreur, oui. parce que ça peut aussi complètement briser la peur qu'on peut ressentir. Ça peut vraiment faire passer le film dans un autre genre, justement. Dans quelle mesure Scream, dans la plupart du temps, réussit à avoir un équilibre, justement, entre horreur et humour.
Un équilibre qu'il n'a pas gardé longtemps. Déjà, il faut souligner ça, parce que maintenant, il n'y a plus du tout d'humour dans ouais. Scream. Depuis le 5, c'est plus du tout la mode. On reste sur quelque chose de très sérieux, de plus en plus dark, même à l'image. Scream 1, c'est vrai.
Il y a un peu une différence entre les 4 premiers et 5, 6, 7. Enfin, 5,
c'est
6,
plus Wes Craven.
Voilà,
oui. Wes Craven.
On sent que c'est une autre ère, en fait.
C'est ça. Kevin Williamson, il a toujours écrit son script avec un peu d'humour, quand même, un peu de légèreté. Il voulait quand même que ce soit accessible aux adolescents, à tout le monde, d'où les vannes, etc. Le truc aussi, si vous regardez bien, c'est que Scream 1 est filmé comme une comédie. C'est très lumineux. Très lumineux, toujours très large, on voit tout. C'est pas filmé comme un film d'horreur, il n'y a pas d'obscurité, à part dans la séquence d'introduction, à part dans l'intro, parce que évidemment c'est là où il faut taper fort, mais sinon c'est filmé de manière très classique, comme une sitcom quasiment. Toujours, ouais. toujours. Et c'est quelque chose qui va un peu disparaître au fur et à mesure, et quand des nouveaux cinéastes vont arriver sur la franchise, ils vont passer à côté de ça, totalement. Eux, ils vont vouloir faire un nouveau Ghostface, il faut le réiconiser Ghostface. On est en 2021, on n'est plus du tout à l'époque. Beaucoup de gens trouvent que Scream 1 c'est kitsch. Je sais pas si vous avez vu Scream le premier avec une audience plus jeune. Récemment.
Non.
J'ai eu cette chance-là cette année avec la Gen Z, vraiment dans la salle, et beaucoup de gens étaient en mode putain, mais c'est Scary Movie en fait.
Ouais.
Ah ouais.
Et en fait, et
ça a tellement été parodique, les gens.
C'est ouais. ça. Ouais. Et je reviens à ce que je disais au début, en fait, Scary Movie a à la fois propulsé Ghostface, mais a aussi heurté Scream. Il y a tellement d'humour, tellement de vannes, que pour les gens, le côté kitsch Y2K des années 90 ne passe plus. Donc même si les premiers avaient cet équilibre, ils ont dû le jeter. Il fallait
réconcilier. C'est plus l'époque, peut-être.
C'est ça. Et le truc, c'est dommage parce que Ghostface, ce qui était vraiment marrant avec lui, c'est que c'est un boogeyman qui tombe, qui se mange des portes, qui se mange des claques. Il est humain, quoi. Il est comme vous et moi, il trébuche. Et ça, c'est vraiment drôle. C'est pour moi, d'où, enfin, c'est tout l'humour de Scream. Et on le perd petit à petit. Prenez toujours Scream 6, désolé, je tape beaucoup dessus. Mais il a un fusil à pompe, Ghostface, dedans, quoi. On fait tout pour tenter de te faire croire que Ghostface, c'est un boogeyman hyper menaçant, hyper dark, alors qu'il fait 1m70, rappelons-le, et que, quand même, c'est un humain. Tu peux quand même le. Voilà. Il tente de te faire croire que c'est carrément un boogeyman surnaturel.
Oui, oui.
Tu vois.
Bon, voilà, on pourrait parler encore longtemps de Scream, mais c'est l'heure de la question qui tue. La question, elle est simple. Je vais la faire en français, mais j'ai envie de la faire en anglais. Quel est votre film d'horreur préféré? Bah oui, c'était sûr, c'était évidemment. Sûr. Judith, est-ce que tu as une réponse ou pas?
Oui, pour moi, c'est le Dracula de Coppola, qui est mon film d'horreur.
Tu le mets comme un film d'horreur? Ouais,
ah, voilà, attends, okay. attends. Sinon...
Non, mais c'est ta réponse, mais c'est intéressant, okay. justement.
Parce que j'ai failli citer Les Autres, sinon, qui est le film de fantôme que j'adule.
Exceptionnel.
Voilà. Le Dracula de Coppola, pour moi, j'ai envie de dire, c'est toute ma vie. Je veux dire, c'est tellement exactement ce que moi, je recherche au cinéma, cette espèce de rugosité des effets qui vont à un côté extrêmement réel, palpable. C'est complètement baroque, c'est du romantisme noir absolument pur. Et en fait, c'est l'une des très rares adaptations de roman qui est meilleure que le roman, je trouve. Tous mes respects à Bram Stoker, j'aime beaucoup le roman Dracula.
Ouais, ouais.
Mais Coppola, en fait, avec le scénariste James J. Hart, vont avec ce Dracula tellement plus loin, disent des choses tellement plus profondes, un commentaire à la fois sur l'amour, sur le temps, sur les époques et sur le cinéma aussi, qui est passionnant. Vraiment, c'est un film dont on n'a jamais fini de parler, en fait.
Et toi, Romain ?
C'est dur, là, je fais une crise d'angoisse. choix.
On peut continuer à parler de Dracula de Coppola, si tu veux.
Non,
c'est passionnant comme
film. Mais c'est un très bon choix. Pendant longtemps, mon film d'horreur préféré, c'était The Thing de John Carpenter, chef-d'œuvre. Mais plus je le revois, plus Massacre à la tronçonneuse de Tobey Hooper, qui est un choix extrêmement facile, mais en même temps, tellement, tellement bon. Et c'est un des rares films d'horreur que je ressens physiquement. Le film me draine. Le film a une patte très crado, très poussiéreuse. Il n'y a pas une goutte de sang dedans. Pourtant, il gueule sans arrêt. Du bruit, t'es agressé par le film. Et du coup, le film me vide à chaque fois, quoi. C'est un ride, vraiment. Et je pense que c'est mon film d'horreur préféré.
Très bien, Matt. Deux choix différents, mais exceptionnels. Deux classiques, en tout cas.
Oui.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Julie, d'avoir été là.
Merci.
On te retrouve, évidemment, donc, sur Écran Large et avec la chaîne Demoiselle d'Horreur. Et merci beaucoup à Romain aussi, avec notamment le podcast Jumpscare, où tu parles de tous ces sujets.
Exactement.
Voilà, merci beaucoup. Et donc, n'hésitez pas à aller voir Scream 7 au cinéma, à vous faire votre avis.
Et oui.
Voilà. Merci également à Neve Campbell, quand même, qui nous a donné un peu de son temps.
Oui, c'est vrai.
Merci, Neve. Exactement. Et merci aux toutes les personnes qui ont préparé cette émission. Alexa Lacour, Edouane Tella, réalisée par Gaëtan en colis. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Adèle Caglar au mix et Maëlle Larfassor à la prise de son. Et merci également à Hélène Joguet à la traduction de l'interview. Merci aux équipes web. Et demain, nous serons à la même heure avec Camélia Jordana. Autre ambiance, complètement, demain dans l'émission.
Le grand écart.
Exactement.